Les parts actualités. Bonjour à vous toutes et vous tous. Lundi 10 avril 2017, Clotilde Seille avec vous sur les ondes de Canal M pour vous présenter ces paractualités avec les titres du jour. La multiplication de cas de personnes vulnérables qui perdent des services à domicile sans explication. Les intervenants qui œuvrent auprès de jeunes de 10 à 15 ans ayant une déficience intellectuelle seront mieux outillés pour leur enseigner les bases de la santé sexuelle. Abitibi-Témiscamingue, la première édition du salon TDAH sur les troubles du déficit de l'attention. Également à l'émission aujourd'hui, le gouvernement albertain réforme le revenu garanti pour les personnes handicapées et en Europe, le nouveau billet de 50 euros accessible aux malvoyants. Deux entrevues, d'abord avec Monique Lefebvre, directrice de l'organisme AlterGo et fondatrice du défi sportif AlterGo. Et puis aujourd'hui aussi, Evelyne Couturier, chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique au sujet du travail invisible et de ses injustices. Alors, devant la multiplication de cas de personnes vulnérables, écrit Charles Côté dans la presse, qui perdent des services à domicile sans explication, l'avocat Jean-Pierre Ménard et le député Amir Kadir demandent l'intervention de la protectrice du citoyen. Le gouvernement asphyxie la capacité du réseau de la santé à donner des soins, a affirmé M. Kadir dans une conférence de presse à Montréal où une demi-douzaine de personnes se déplaçant en fauteuil roulant ont témoigné personnellement de leur situation. Daniel Saint-Louis, 59 ans, souffre d'arthrite rhumatoïde depuis l'âge de 11 ans. Elle a vu son nombre d'heures de service à domicile passer de 48 à 22 heures par deux semaines. Elle dit qu'elle en est réduite à choisir entre se nourrir et se vêtir. « Je préfère manger plutôt que d'avoir de l'aide pour m'habiller », a-t-elle affirmé. « Je m'excuse de me présenter à vous en jaquette ». La frêle dame se déplace en fauteuil motorisé et ses bras sont atrophiés par la maladie. « Je ne mangeais carrément plus, j'ai perdu 13 livres depuis novembre dernier », a-t-elle déclaré. « L'aide qu'on m'enlève, c'est comme me couper les bras et les jambes, littéralement. Je dis à M. Barrette, le ministre de la Santé, « Il me faut de l'aide médicale à mourir ». Il m'a enlevé la vie. Elle dit tenir à la vie depuis qu'elle est devenue grand-mère récemment. Des cas comme celui de Mme Saint-Louis, il y en a de plus en plus, affirme Maître Jean-Pierre Ménard, avocat bien connu des causes médicales. C'est beaucoup plus fréquent depuis 2 ans, dit-il. On coupe vraiment dans les services essentiels, épicerie, repas. La plainte à la protectrice du citoyen sera envoyée lundi, donc aujourd'hui, en 2012. Un rapport précédent de la même institution avait déjà constaté des difficultés dans l'accès aux soins à domicile. D'après un texte de Audrey Leblanc de TC Média, on apprend que les intervenants qui œuvrent auprès des jeunes de 10 à 15 ans vivant avec une déficience intellectuelle seront mieux outillés pour leur enseigner les bases de la santé sexuelle. Le CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec vient de lancer le programme d'éducation à la santé sexuelle pour les adolescents. L'objectif principal de cet outil est de favoriser le développement des habiletés nécessaires à l'épanouissement de la santé sexuelle de ces adolescents qui, je vous le rappelle, vivent avec une déficience intellectuelle. En présence d'au moins un des deux parents, l'intervenant du CIUS abordera avec l'adolescent divers thèmes dont la puberté, l'hygiène personnelle, l'anatomie des organes sexuels, la pudeur, la prévention des agressions, l'orientation sexuelle et la cyberprévention. Du matériel visuel a été produit de sorte à appuyer les propos de la discussion. On veut que les jeunes apprennent à développer leur estime de soi, le respect de soi et le respect des autres aussi, mentionne Mme Labbé. On veut qu'ils comprennent les changements de leur corps et les changements dans leurs relations affectives. C'est essentiel qu'au moins un parent soit présent pour que les discussions et l'apprentissage puissent se poursuivre à la maison. Une trentaine d'intervenants en Mauricie et au centre du Québec seront formés prochainement dans le but de pouvoir offrir la formation aux adolescents. Le programme mis de l'avant par le CIUS est unique au Québec. Les auteurs de l'ouvrage aimeraient pouvoir exporter le concept dans d'autres CIUS et CIS. « Madame Lefebvre, Monique Lefebvre est directrice de l'organisme Altergo et fondatrice du défi sportif qui porte le même nom. Bonjour Madame Lefebvre.
Bonjour madame, vous allez bien?
Et vous-même?
Oui, en pleine forme, en cette belle journée.
En cette belle journée, et puis ben, il faut être en forme parce que mine de rien, le défi Altergo, c'est pour bientôt. Hein?
C'est pour bientôt, du 24 au 30 avril, nous allons recevoir 6 700 athlètes qui vont venir performer dans 14 sports. Alors, je peux vous dire que toute notre équipe est travaille à fond, on a rencontré les bénévoles en fin de semaine, tout est prêt pour recevoir tout ce beau monde, puis maintenant, ben, nous reste à lancer le mot au public de venir encourager les athlètes, puis venir voir le potentiel des personnes qui ont des limitations, parce que souvent on pense qu'une limitation empêche un grand fonctionnement, mais tout au contraire, ça donne parfois de la résilience, une détermination, puis c'est ce qu'on veut faire connaître au public, parce que Altergo est là pour abolir les obstacles à la pratique du loisir et du sport, alors on veut montrer aux gens que c'est possible de bouger.
C'est ça, parce que vous avez dans votre mission différents volets différents. Ce serait peut-être bien que vous nous les rappeliez, Madame Lefebvre.
Oui, alors dans notre mission, Altergo va être un créateur d'accessibilité, faire en sorte que les personnes qui ont le goût de bouger, de faire de la culture, de faire du loisir, puissent le faire. Mmh. Alors on veut travailler sur l'abolition des obstacles. Un obstacle majeur qu'on voit, c'est la méconnaissance des personnes handicapées puis des attitudes ou des préjugés. Mmh. Alors, on a mis en place un programme de formation, une organisation qui fait de la formation. On sait que la période estivale s'en vient. En période estivale, ça veut dire pour les parents aussi des camps de jour. Donc, on est là pour faciliter aussi l'inclusion des jeunes handicapés dans les camps de jour, aider les familles, aider les organisations de camps de jour à bien recevoir les personnes handicapées. Donc, on se prépare à former à travers une centaine d'organisations, 1000 personnes au moins, pour bien accueillir les jeunes, que ce soit sensibiliser les accompagnateurs ou sensibiliser le personnel aussi qui travaille dans le camp, à avoir les attitudes, puis à avoir le réflexe de penser à rendre leur activité accessible pour que les jeunes handicapés puissent participer comme tous.
On parle de quelle formation à peu près?
C'est une formation de 3 heures qui donne à, surtout sur comment accueillir la personne, quelles sont les attitudes à avoir, à penser aussi. Parce que quand on est dans un camp de jour, on va penser faire une sortie, mais est-ce qu'on pense que le lieu où on va aller va être accessible? Est-ce qu'on pense comment intégrer le jeune, comment l'aider à prendre sa place et aussi expliquer aux autres enfants quels sont les besoins de ce jeune-là, puis qu'est-ce que lui aussi peut apporter et contribuer. Puis je dois vous avouer que ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'on fait ça. Puis je pense que c'est une façon à long terme de changer les mentalités parce que de plus en plus les jeunes handicapés participent à l'école, dans les camps de jour, partout avec les autres. Et la population voit de plus en plus la richesse de l'inclusion.
Oui, bien sûr. Monique Lefebvre, vous avez aussi récemment lancé une campagne sur les médias sociaux. Et quel beau titre quand même. Visez haut, mais haut ne s'écrit pas H-A-U-T, mais bien A-U, pour accessibilité universelle.
Oui. Bon, je vous disais tantôt, notre mission, c'est d'abolir les obstacles. Un obstacle qu'on voit, c'est que la population ne connaît pas beaucoup les besoins des personnes handicapées. Et les besoins passent par l'accessibilité universelle. Qu'on conçoive des programmes, qu'on rende des activités accessibles. Alors, le but de notre campagne, c'est une campagne qui se fait sur les médias sociaux et c'est de faire en sorte que la communauté qui se préoccupe d'accessibilité puisse partager les bons coups, faire connaître qu'est-ce qui se fait de bien ou aussi qu'est-ce qui se fait de moins bien. On sait qu'il y a des élections municipales qui s'en viennent au Québec.
Oui.
Alors, on trouve important de faire valoir l'importance de l'accessibilité, faire valoir son impact, ses retombées pour toute la communauté. C'est un vrai, quand c'est accessible pour tous, c'est vraiment une richesse pour une communauté. Alors, ce qu'on veut faire par les médias sociaux, c'est d'inviter des individus, d'inviter des organismes à publier les bons coups, créer une communauté de l'accessibilité universelle qui soit capable de faire sortir l'accessibilité comme un enjeu aux prochaines élections. Les municipalités, c'est un gouvernement de proximité. Mm-hmm. C'est là où on a besoin d'accessibilité majoritairement. Donc, c'est le but de cette campagne, faire parler de l'accessibilité.
Alors, on fait comment? On fait juste clic, viser haut, V-I-S-E. S-E-Z-A-U, c'est bien ça?
Oui, puis les gens peuvent aller sur le site web d'Altergo, oui. Où on a vraiment un article sur qu'est-ce que la campagne Viséo, puis on a une boîte à outils qui est disponible quand quelqu'un veut participer à cette campagne. Et aussi, les gens peuvent nous appeler chez Altergo, parce que c'est pas tout le monde non plus qui a la disponibilité des outils web.
Absolument.
Qui sait comment s'y prendre. Alors, notre numéro, c'est 514-933-2739. Alors, ça nous fera plaisir aussi d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Puis j'en profite aussi pour vous dire que dans le cadre du défi sportif, on va présenter des compétitions sportives où il y aura un service d'audio-description. Alors, je pense pour la clientèle du Canal M, c'est quelque chose qui peut être fort intéressant.
Bien sûr.
Alors, le vendredi, le samedi et le dimanche, il y a des compétitions de hockey luge qui seront vraiment audio-descriptées.
Oui.
Alors, les gens vont vraiment pouvoir vivre l'expérience. Et moi-même, l'an passé, j'ai eu la chance d'écouter. J'étais avec des personnes qui avaient une déficience visuelle, puis ont vraiment apprécié la description du match. Puis on sait qu'au Québec, la fibre de hockey est très présente.
Oui.
Alors, ça nous fait plaisir de présenter du hockey luge, une discipline accessible, puis de la présenter de façon accessible pour que les gens puissent le vivre. Alors, c'est aussi au même numéro de téléphone si les gens veulent avoir un peu plus de détails sur l'horaire. Mais ça nous fait plaisir. Ça, c'est une façon. Hein. Ça va être aussi sur Viséo. C'est une façon de rendre le sport plus accessible.
Voilà. Eh bien, écoutez, bravo. Juste une dernière petite question, Monique Lefebvre. Est-ce que vous avez tous vos bénévoles ou est-ce qu'on peut encore s'inscrire?
On peut encore s'inscrire. Il nous en manque encore quelques-uns.
D'accord.
Alors, c'est sur le site web du Défi sportif ou par téléphone, encore une fois. Ça nous fait plaisir d'accueillir des gens qui ont le goût de vivre une expérience humaine hors de l'ordinaire.
Et puis, rappelons donc que ce sera du 24 au 30 avril le prochain et qu'évidemment, Canal M va se faire un plaisir de s'associer à tout ce qui va se passer là-bas. Et j'espère aussi qu'il y aura d'autres médias.
Oui, hein? Puis je vous invite à venir faire un petit tour parce qu'on se parle souvent durant l'année.
C'est vrai, Monique.
Alors, vous pourriez commenter votre expérience aux auditeurs.
Oui, j'aimerais. Regardez, je mets ça à mon agenda de presque ministre.
Merci beaucoup. Je vous remercie.
Au revoir, Monique. Bonne fin de journée.
Merci.
Alors, maintenant, par actualité régionale, la première édition du Salon TDAH sur les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité se déroulait dimanche au Centre des congrès de Rouyn-Noranda avec pour objectif de faire connaître les différentes ressources disponibles en Abitibi-Témiscamingue en lien avec ces troubles neurologiques. Conférences, kiosques d'information et discussions étaient au menu de cette première activité de réseautage qui s'adresse aux parents, étudiants, mais aussi aux étudiants aux adultes, pardon, qui pensent vivre avec une forme de TDAH. C'était aussi l'occasion de faire connaître le nouveau regroupement Dysphasie et Dyspraxie Verbale de l'Abitibi-Témiscamingue, nous dit Émilie, parent Bouchard. Des parents qui s'amusent à l'air de jeu pendant que des enfants qui s'amusent à l'air de jeu pendant que les parents consultent les kiosques d'information de ce salon. D'autres comme Martine Sigouin qui sont venus chercher des réponses pour eux-mêmes. En discutant avec des intervenants, elle croit avoir découvert qu'elle vivait depuis 52 ans avec un trouble du déficit de l'attention et une dyspraxie. J'ai vécu toute ma vie comme ça sans connaître les raisons pour lesquelles j'étais comme ça, souligne-t-elle. Précisant que depuis son plus jeune âge, elle se sent différente des autres dans sa manière d'apprendre et de traiter l'information. Et enfin, j'ai des mots, j'ai des raisons, j'ai des informations sur pourquoi je suis comme ça. C'est tellement un soulagement, ça fait tellement du bien de savoir ça. Alors, le regroupement en question, c'est une ressource régionale donc pour l'Abitibi-Témiscamingue où on cherche à aller chercher tous ces gens-là pour sortir un peu de notre coquille et que les gens sachent qu'est-ce que c'est que ces troubles du TDAH. Même si je vis avec un trouble primaire du langage, je suis capable d'avancer fait valoir par exemple celui qui a dû développer des trucs pour surmonter ses difficultés à travers son parcours collégial et universitaire et qui développe le regroupement avec des partenaires du secteur de la santé et des parents sous l'égide de Langage Québec. Alors on peut joindre le regroupement Dysphasie Dyspraxie Verbale Abitibi-Témiscamingue via la page Facebook du même nom. Quant au Salon TDAH, Nathalie Beaulieu, la fondatrice de cette initiative qui a pris naissance dans la région montréalaise, espère pouvoir répéter l'activité dans la région au cours des années à venir. Et puis, en Beauce.com nous apprend par la plume d'Amélie Carrier que la 7e édition du défi PSF de Beauceville est lancée. Cette 7e édition du défi, propulsée par les constructions Martin-Jacques, est officiellement lancée. Cet événement sportif ouvert à toute la population se déroulera le samedi 20 mai prochain sur l'avenue Lambert à Beauceville. Lors de l'édition 2016, un peu plus de 800 personnes avaient relevé le défi. Cette année, le comité organisateur, composé de Robin Rodrigue, le directeur de la polyvalente Saint-François, Steve Breton, Dave Loubier et Bernard Turcotte, souhaitent accueillir plus de 1000 personnes au défi. Cette année encore, la polyvalente Saint-François et le Centre de réadaptation en déficience, le CRDP, s'unissent afin d'intégrer des jeunes présentant une déficience physique. Il y aura donc un jumelage fait avec certains élèves beaucerons et les jeunes du CRDP le jour même de l'événement. Il est possible de s'inscrire à cet événement du 20 mai en consultant le site web du défi PSF. Le travail invisible et ses injustices. Elle est chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, et elle était l'une des conférencières à l'AFEAS de Laval le dimanche 2 avril à l'occasion de la journée du travail invisible qui, elle, a eu lieu le 5 avril dernier. Elle s'appelle Evelyne Couturier. Bonjour, Evelyne.
Bonjour.
Je fais exprès de faire une petite césure entre Evelyne parce que ça s'écrit bien en deux mots. Hein?
Exactement.
Bon, alors d'abord, Evelyne, qu'est-ce que l'AFEAS, s'il vous plaît?
L'AFEAS, c'est l'Association féminine d'éducation et d'action sociale, et c'est un organisme de défense des droits des femmes et pour le progrès social qui a été fondé en 1966. Donc, c'est un groupe qui célèbre ses 50 ans, qui célébrait en fait ses 50 ans l'an dernier. Mm-hmm. Et depuis leur fondation, cette association féminine et féministe travaille pour faire avancer la reconnaissance du travail invisible des femmes. Et aussi le travail invisible, en fait, de toutes les personnes qui font ce travail un peu dans l'ombre, mais qui est nécessaire pour que la société puisse continuer à exister.
Exactement, parce que sans compter que ce ne sont pas seulement des mamans juste à la maison, mais il y a aussi, on parle aussi beaucoup des personnes qui accompagnent et des gens qui sont en difficulté aussi.
Exactement. Donc, des proches aidants, mais comme l'a souligné Hélène Cornelier, qui était également panéliste pendant la conférence que j'ai donnée à Laval, l'idée que les personnes soient proches est un peu nécessaire lorsqu'on mm-hmm. aide les gens. Donc, elle défendait l'utilisation du mot « aidant » parce qu'il n'y mm-hmm. a rien de naturel là-dedans et la proximité, elle est de facto quand on aide les gens. Donc, ces aidants-là qui passent une partie de leur vie à aider, que ce soit leurs enfants, les enfants de leur famille, oui. leurs sœurs, leurs frères ou leurs parents qui sont vieillissants ou qui vivent avec des handicaps qui peuvent être parfois lourds, eh bien, ça fait aussi partie du travail mm-hmm. invisible qu'on reconnaît.
Alors, vous, votre conférence portait précisément là-dessus, sur le travail invisible?
Je parlais, entre autres, de comment la société était déstructurée avec l'austérité. Il y avait aussi la question de la fiscalité du travail invisible parce que le fait de laisser son emploi ou de diminuer ses heures de travail pour aider une personne qui en a besoin, a des conséquences, en fait, sur son rapport d'impôt à la fin de l'année. Des conséquences qui peuvent être assez lourdes, mais qui sont aussi lourdes dans le temps. Donc, les décisions qu'on prend maintenant vont avoir un effet encore plus élevé dans 10 ans, dans 15 ans, et particulièrement quand on va prendre notre retraite.
Et est-ce qu'on prévoit des changements du côté des gouvernements pour améliorer cette situation? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des oreilles compatissantes et surtout qui comprennent les enjeux?
Eh bien, il il y a une certaine tendance à voir qu'il y a une plus grande reconnaissance du travail des aidants dans la fiscalité, dans des programmes gouvernementaux, mais certaines personnes un peu cyniques se disent que c'est beaucoup plus pour éviter l'institutionnalisation, donc éviter des coûts élevés dans le système de santé, plutôt que d'aider véritablement les personnes qui prennent la charge d'aider leurs proches. Cependant, on voit quand même certains changements. On voit, par exemple, au fédéral, il y a eu une certaine simplification dans les crédits d'impôt. Avant, il y avait plusieurs programmes de crédits d'impôt, alors c'est un peu difficile de savoir si on qualifiait et tout. Alors, on a fusionné 3 crédits d'impôt pour rendre ça plus simple. On a également, et ça, c'est une excellente nouvelle, j'imagine que plusieurs personnes savent, peut-être plusieurs ne le savent pas, mais avec l'assurance-emploi, on peut avoir un congé de compassion pour aider un proche qui vit des difficultés de santé, mais jusqu'à tout récemment, c'était seulement si la mort était prévisible dans les 6 prochains mois, qui est extrêmement contraignant, un peu dérangeant dans la conception des gens qui accompagnent les personnes qui ont des difficultés et des handicaps. Maintenant, il y a un congé pour les personnes qui sont gravement malades, et ce congé est de 15 semaines. Donc, on n'est plus obligé d'attendre la mort d'un proche pour pouvoir prendre une pause de son emploi et aller l'aider. Du côté du provincial, du côté du Québec, il y a une révision des normes du travail qui a lieu en ce moment. On attend les résultats dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et là, on espère pouvoir voir aussi certains accommodements. Donc, on ne s'attend pas à avoir de l'argent supplémentaire, mais quand même de protéger l'emploi pendant une durée plus longue pour que les personnes qui s'absentent de l'emploi pour des raisons familiales, pour des raisons d'aider les gens qui leur sont proches, puissent conserver le lien d'emploi et quand même revenir après avoir passé un temps étendu à l'extérieur du travail. Et également, voir si ce serait possible le fractionnement des jours familiaux, parce que les aidants, oui, on peut penser aux cas qui sont plus lourds, mais on peut penser aussi au fait que les femmes, les hommes et surtout les femmes, se retrouvent à être la personne de référence, que ce soit pour leurs parents vieillissants, pour leurs enfants ou pour la famille qui a des besoins. Donc, partir un après-midi en catastrophe pour aller à l'hôpital ou pour prendre soin de quelqu'un, bien sûr, on perd une journée totale de travail pour ça. Ça complique les choses. Donc, on espère dans les normes du travail voir de tels changements.
Est-ce que ça existe ailleurs sur la Terre?
Oui, bien sûr. Et il existe aussi dans plusieurs autres pays, notamment en Belgique ou en France, des congés qui sont possibles de prendre, d'accumuler des congés pour pouvoir les prendre en bloc à quelques reprises dans notre vie, des crédits de temps, par exemple, pour pouvoir prendre du temps à l'extérieur du travail tout en gardant un lien non seulement d'emploi, mais de rémunération aussi. Donc, ce genre de choses-là est intéressant. Bien entendu, le problème avec tous ces projets-là, c'est que ça prend toujours en considération un travail qui est temporaire. Et le travail d'aidant peut être beaucoup plus long que seulement quelques semaines ou quelques mois. On voit plutôt quelques années, souvent. Donc, on n'a pas encore trouvé de moyen, que ce soit juridique ou social, de pouvoir vraiment reconnaître ce travail-là. Et je parlais de la retraite un peu plus tôt. Eh bien, lorsqu'on décide de diminuer son temps de travail ou de sortir complètement du travail rémunéré pour prendre soin de quelqu'un, eh bien, on n'a plus de cotisation sociale. Donc, on n'a plus droit rapidement aux prestations de chômage, à l'assurance parentale, où on voit l'argent qu'on accumule à la retraite ne pas s'accumuler. Et il y a aussi la question des crédits d'impôt qu'on voit présentement, que ce soit au fédéral ou au provincial, qui prennent en considération des revenus qui sont très faibles. Donc, rapidement, on coupe en disant la personne que vous aidez ou vous-même, vous êtes assez riche pour pas qu'on ait besoin de vous soutenir, alors que les besoins financiers ne diminuent pas parce que on a plus d'argent dans nos poches.
Écoutez, Evelyne Couturier, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, donc à l'IRIS, et que vous étiez aussi une des conférencières à la FEAS au sujet de ce travail invisible et de ces injustices. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Bonne fin de journée.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
Au revoir. De Radio-Canada, Alberta, on apprend, c'est un texte de Tiffany Roquette, que le gouvernement albertain réforme le revenu garanti pour les personnes handicapées. Plus de 6 mois après le rapport du vérificateur général de l'Alberta qui avait sévèrement critiqué la gestion du revenu garanti pour les personnes handicapées, qu'on appelle l'AISH, le ministre des Services sociaux et communautaires, Irfan Zabir, a dévoilé son plan d'action pour améliorer l'administration de ce revenu. Les changements prévoient de rendre le programme plus simple et plus accessible et de mesurer les progrès. Un formulaire de candidature simplifié a été élaboré et sera mis en ligne à partir de septembre. Un meilleur partage d'informations sera également établi à cette date pour que les demandeurs n'aient pas à fournir les mêmes papiers à plusieurs programmes d'un même ministère. Plus de formations et d'outils seront donnés aux employés du ministère pour les aider dans le processus de décision pour les personnes admissibles à l'AISH. Des instruments de mesure seront créés d'ici décembre 2017 pour constater l'efficacité des changements mis en place. Enfin, disent les personnes handicapées. L'AISH est un élément clé du système de soutien de mes filles, affirme Mme McClory, qui se dit optimiste. J'ai besoin de cet espoir, j'ai besoin que le gouvernement écoute les personnes handicapées, j'ai besoin que notre ministre fasse plus qu'écouter et agisse. Dans son rapport d'octobre 2016, le vérificateur général avait décrit l'accès au programme AISH comme compliqué et inefficace. Plus de 55 000 personnes reçoivent ce revenu. À l'international maintenant, le nouveau billet de 50 euros est désormais accessible aux malvoyants, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir avoir des billets de 50 dans leur portefeuille, mais qu'ils vont bien pouvoir au toucher s'apercevoir que c'est un billet de 50, j'ai envie de dire, niaiseux à celui qui est de l'autre côté de la vitrine. Ça vient de handicap.fr. Un billet lisible en cas de cécité, la nouvelle coupure de 50 euros disponible à partir du 4 avril 2017, donc elle y est depuis déjà maintenant quelques jours, dans les 19 pays de la zone euro, se montre plus accessible que sa version précédente. Présenté le 3 avril lors d'une conférence de presse à Paris, ce billet comprend des impressions en relief placées sur les bords, spécialement destinées aux citoyens aveugles et malvoyants. Sa fenêtre holographique pictogramme en relief représente le visage d'Europe, princesse de la mythologie grecque. La nouvelle coupure remplacera progressivement l'ancien billet de 50 euros, le plus utilisé dans la zone euro, mais jamais relooké depuis la création de la monnaie unique en 2002. Selon la Banque centrale européenne, le billet de 50 euros représente 45% du volume total des billets en circulation dans la zone euro, mais seulement 20% de ceux utilisés en France, où le billet de 20 euros est privilégié par les ménages. Culture, vol au-dessus d'un nid de coucou, ça vaut le détour, écrit Louise Bourbonnais dans le Journal de Montréal. C'était un pari plutôt audacieux que de mettre en scène le film oscarisé Vol au-dessus d'un nid de coucou qui mettait en vedette de grands acteurs comme Louise Fletcher et Jack Nicholson à l'époque. Grâce au propos qui a été repris avec justesse et à l'épatante performance de Julie Le Breton, on peut facilement déclarer que le pari du metteur en scène Michel Monti, avec qui d'ailleurs je m'étais entretenue dans le cadre de l'émission Les Paractualités, eh bien, est réussi avec brio. Il semblerait qu'aussitôt le rideau levé, les spectateurs sont transportés dans l'ambiance austère de cet institut psychiatrique des années 60, où, je vous le rappelle, et c'est ce que nous rappelle aussi Louise Bourbonnais, on a eu l'audace de jumeler des comédiens d'expérience avec d'autres qui souffrent d'un réel handicap. Un concept qui ajoute au réalisme de la pièce. L'INCA vous invite à une consultation pour les aider à développer des programmes qui répondent à certains besoins. Alors on vous dit, venez partager vos opinions sur la façon dont INCA peut améliorer encore davantage la vie des personnes vivantes avec une perte de vision dans les années à venir. Il est possible de participer à cette consultation au bureau de l'INCA ou par téléconférence pour ceux qui demeurent en région ou ne peuvent se déplacer. Alors pour s'inscrire, on fait Pascal Le avec un E à pascal.roy@inca.ca. C'est vraiment tout âge confondu pour le mardi 11 avril de 9h à 11h, donc demain, ou les jeunes de 18 à 35 ans, mercredi le 12 avril de 18h30 à 20h, vivant avec une perte de vision. Voilà, c'était Clotilde Seille au micro de Canal M qui vous présentait les paractualités. Merci Jean-Sébastien. Bonne journée, à demain 11h30.